بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, il nous restait un verset à compléter dans le surat al-A'la. C'était le verset de conclusion après qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé au prophète alayhi salatu wa salam et à la ummah tout entière. On va s'approcher un petit peu au moins la voix. La voix reste inshallah, jazakallahu khair. Par cet amsabbih isma rabbika al-A'la, Allah Azza wa Jal demande à chaque mu'min, chaque personne qui a la foi, l'amour pour Allah de son cœur, de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est A'la, c'est le plus haut, c'est le plus grand. Allah est miséricordieux, Allah est Ghafur Rahim, Allah il est Mustawa ala al-Arsh, il est établi sur son trône. Allah a créé l'être humain pour accomplir son ibadah, son adoration, et celui qui meurt avec l'adoration d'Allah, avec la foi de son cœur, en faisant l'adoration d'Allah avec le minimum, voire aucun péché dans son livret de compte, c'est l'homme le plus heureux. Celui qui, le jour de la résurrection, reçoit son livret de compte de la main droite, sera l'homme le plus heureux de la création. Il montrera son livret de compte à toute la création, à ses proches, à sa famille, avec une grande fierté, et ce sera une personne qui connaîtra facilité sur facilité dans toutes les étapes de l'au-delà, jusqu'à, Inch'Allah, l'accès au paradis. Tout ça, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal fait en permanence de le Coran. Et Allah Azza wa Jal ensuite cite quelques-uns de ses sifat, de ses qualités, qualités laïsa ka mithlihi shay', les qualités d'Allah qui sont incomparables avec les qualités de sifat de l'être humain. Allah qui est le créateur, Allah qui a créé l'homme d'une façon parfaite et d'une manière générale, toute la création a été créée de manière parfaite. Allah Azza wa Jal ensuite l'a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam, un des côtés miraculeux de la révélation également. Et Allah Azza wa Jal rappelle que ce din, cette religion, est une religion facile. Facilement, un musulman peut se rapprocher d'Allah. On avait expliqué assez longuement qu'il n'a pas besoin dans l'islam d'un gros effort pour se rapprocher d'Allah. Contrairement à certains d'autres courants, d'autres religions où qu'une personne devient un dévot, un proche, un waliyullah, la personne doit complètement délaisser le dunya. Regardez dans certaines religions monothéistes où pour devenir un serviteur de la religion, il faut se retirer de la société, il faut refuser de fonder une famille, ne pas avoir de femme, ne pas avoir d'enfants, ne pas côtoyer les gens, ne pas vivre dans une société, dans une ville avec les gens. Donc ça c'est pour que l'homme se rapproche de Dieu. Dans certaines religions, monothéiste. Regardez dans d'autres religions également, dans des religions vraiment beaucoup plus polythéistes, regardez l'exemple des, si je ne me trompe pas, le terme c'est les saadous, c'est dans certaines religions polythéistes où l'homme qui veut se rapprocher de Dieu va se retirer dans la montagne, il va vivre vraiment isolé des gens, et il va vivre dans la méditation permanente du matin jusqu'au soir, et là ce sera quelqu'un qui se rapprochera de son Dieu, Azza'im, celui qu'il prétend être son Dieu. Allah musta'an. C'est-à-dire que contrairement à ces deux autres religions, nous voyons, subhanallah, dans l'islam, il y a une telle facilité que n'importe qui, quelle que soit notre situation sociale, quel que soit notre état de iman, quelle que soit notre ancienneté de le din, que nous soyons nés musulmans, ou que nous sommes entrés dans cette religion il y a 10 jours, il y a 15 jours, il y a 10 ans, il y a 20 ans, n'importe qui a sa chance, n'importe qui a la possibilité de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal rappelle que c'est une religion qui est facile et que les gens qui sont doués d'intelligence, les gens qui ont la foi de leur cœur, ils vont se rappeler, ils vont comprendre ce message. Malheureusement, d'autres personnes, c'est des gens qui sont malheureux, pour eux, ces discours n'atteindront pas leur cœur. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas écrit pour eux la guidée et que ces gens ne font pas les actions non plus, donc, pour aller vers, pour trouver là la guidée. Et malheureusement, la destination de ces personnes sera « Alladhi yasra an-nar al-kubra », ce feu qui est le feu de l'enfer, dont on a un peu décrit hein, la description, on a parlé de la description, comment il a été préparé par Allah Azza wa Jal pendant combien de milliers d'années. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, et ce Jahannam qui a une particularité, qui est un feu qui ne tue pas. Et ça, c'est une des spécificités de l'au-delà qui marque vraiment la différence entre l'au-delà et ce monde, c'est que dans l'au-delà, il n'y a plus de mort. Que ce soit la personne qui accédera au paradis, Allahumma ja'alna minhum, ou que la personne qui entrera en enfer, sallallahu alayhi wa sallam, plus personne ne goûtera à la mort. Ceux qui seront, il y a un hadith qu'on verra peut-être par la suite, que le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal présentera alors que les gens du paradis seront déjà dans le paradis, et que les gens de l'enfer seront déjà dans l'enfer, Allah Azza wa Jal présentera une créature, et ce sera la mort, et la mort sera supprimée. Et là, les gens du paradis exulteront, ils seront extrêmement heureux. Hein, parce que dans, subhanallah, si je ne me trompe pas de TM, je ne mélange pas deux hadiths, mais ce n'est pas extrêmement grave. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il interpellera les gens du paradis, les jannati, les gens qui sont dans le paradis, les gens du paradis auront peur. Hadith dit en ce sens que les gens du paradis, lorsqu'ils entendent Allah qu'ils interpellent, ils auront peur qu'Allah Ta'ala a décidé de les retirer maintenant du paradis. Ils ont peur que ce ni'mat est terminé. Subhanallah, les termes du hadith sont magnifiques. Hein, ils auront cette crainte que quand Allah s'adresse à eux, que c'est pour dire que c'est fini, maintenant je vous retire du paradis. Mais là, Allah Azza wa Jal présentera la mort et que la mort lui-même sera donc éliminée du khalq, de la création. Et là, ces gens du paradis seront satisfaits. Ils auront également la bonne nouvelle de la part d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Ta'ala est content, satisfait d'eux. Et c'est ça qui provoquera la plus grande joie des gens du paradis, qu'Allah Ta'ala leur promettra que jamais plus je ne vais être en colère avec. Donc ça, c'est deux hadiths différents, mais ça montre qu'au paradis, les gens, ils ont peur quand même. Mais quand ils voient qu'il n'y a plus de mort, ils seront contents. Tandis que les gens de l'enfer, ils vont hurler de désespoir, voyant que les souffrances vont perdurer éternellement. Et le mot éternellement, c'est un mot inconnu dans les langues humaines. Parce que la conception, l'intelligence humaine ne peut concevoir que la notion d'éternité. On expliquera ça en parlant par la suite des bienfaits également du paradis. Et puis, j'ai perdu un peu le fil. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, pas de mort et pas de vie. De vie qui sera, on veut dire, profitable pour les gens du Jahannam. قد أفلح من تزكى, on avait vu ça, c'était la dernière fois. C'était le 11 février, si je ne me trompe pas, Allah. قد أفلح من تزكى, donc celui qui se purifie, c'est une personne qui connaîtra le succès. On a vu que se purifier intérieurement, purifier le cœur, enlever le shirk, le kufr, les péchés que le cœur fait. On avait expliqué le sens du mot tazkiyah. Donc on avait bien recadré les choses, que n'importe quelle action que le musulman fait, s'il veut que l'action soit acceptée par Allah Azza wa Jal, l'action doit être conforme à la sunnah. L'action doit obligatoirement être conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien inconscient serait ce musulman qui penserait se rapprocher d'Allah par une action que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait. Et cela, cette réaction, hein, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on fait telle et telle chose pour se rapprocher d'Allah. C'est des moyens pour combler nos faiblesses. Mais cela, dans un certain sens, veut dire que nous n'avons pas la conviction que Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, qu'Allah Ta'ala a rendu ce din complet. Si nous avions la conviction que ce din est complet, qu'on n'a pas le droit de rajouter un centimètre ni en retirer un, on se dirait que c'est uniquement par la tariqa, par le mode de vie du prophète alayhi salatu wassalam, par son enseignement, que nous nous rapprochons d'Allah. Maintenant, si on se dit qu'on est éloigné de l'époque de la révélation, qu'on fait tellement de péchés, qu'on a besoin d'autres méthodes pour se rapprocher d'Allah, ça veut dire que je n'ai pas confiance en ce verset. Ça veut dire que je me dis que la méthode prophétique était valable pour les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, et les gens de leur époque. Et au 21e siècle, en Occident, à la Réunion, en France, ou je ne sais où, ben, c'est pas suffisant parce qu'il y a tellement de fitna, on a besoin d'autres choses pour se rapprocher. Là, wallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a bien expliqué que je vous ai laissé deux choses. À force de répéter, vous allez tous connaître les hadiths par inshallah. Daraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu abada. La suite. Kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé ces deux choses. Celui qui s'y accroche ne sera jamais égaré. Et quand on dit jamais abada, c'est quelle que soit l'époque et quelle que soit la situation. c'est pas que pour les Ahlé Makkah, les Ahlé Medina qui vivent autour du haram, non. C'est même pour celui qui vit parmi les plus grands fitnas qu'il y a de ce dunya. Même à une époque éloignée de la prophétie, c'est-à-dire comme notre époque à nous, celui qui reste accroché au livre d'Allah et à l'enseignement prophétique, jamais cette personne ne sera égale. Et après tous ces enseignements, notre prophète, Allah Azza wa Jal, pardon, après qu'Allah Azza wa Jal a expliqué toutes les choses qu'on a résumées hein, brièvement, Allah subhanahu wa ta'ala conclut le verset en disant « Mais, bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya » Le problème avec l'être humain, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Mais, ce bal, je veux dire, mais malheureusement, mais le problème, c'est quoi? Vous préférez plutôt la vie présente, « Wal-akhiratu khayrun wa abqa » alors que l'au-delà est meilleur et l'au-delà est plus durable. C'est un constat qu'Allah Azza wa Jal fait que malheureusement l'être humain est profondément attaché à la vie de ce dunya. Wallahu musta'an. Et dans les commentaires, les ulama, rahimahumullah, ils expliquent cet attachement. Ça, c'est une fitra. C'est dans l'innéité, hein, c'est dans la nature humaine. Car dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal dit que وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا que l'être humain est attaché au bien de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui de son cœur n'a pas un certain attachement pour le bien de ce monde. Maintenant, d'une personne à l'autre, cet attachement peut varier. Une personne peut rechercher le dunya pour vivre correctement et pour pouvoir conjuguer sa vie de ce monde avec la vie de l'au-delà. Et ça, c'est un principe qui est dans le Coran. Voilà, atteint ça. Nasiba kamilat dunya. On vit pour Allah, on meurt pour Allah, mais sans oublier qu'on a un rôle dans ce dunya, on a des responsabilités par rapport à notre épouse, par rapport à nos enfants, par rapport à notre. Vous voyez? Et puis il y a ceux qui sont tellement attachés, hein, jusqu'à arriver à un degré, hein, ce qu'on appelle la cupidité. Des gens qui vivent pour l'argent, qui font tout pour obtenir un euro ou un dollar de plus jour après jour, et que cet attachement qu'ils ont pour le dunya finit par leur faire oublier le akhirat, finit par leur faire oublier l'au-delà, et d'une manière générale, le dhikr Allah, la pensée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une fois, c'est dit que l'être humain aime ce qui est immédiat. Et ça, également, c'est dans la nature humaine que d'aimer ce qui est palpable, ce que je peux profiter tout de suite. Et le ajil, ce qui est palpable, c'est exactement le contraire de al-rayb. C'est exactement le contraire de al-rayb. Al-rayb, c'est quoi? C'est l'invisible. Al-ladhina yu'minuna bil-rayb. Alors que c'est le premier sifat, la première qualité du musulman, c'était dans la sourate al-Baqara. Ceux qui croient en l'invisible. La différence entre croire en l'invisible et croire au plaisir immédiat, c'est quoi? Pour moi, le plaisir immédiat, c'est ce que je vais manger, le plaisir, la jouissance que je vais avoir en mangeant, en obtenant de l'argent, en profitant hein, de tous les plaisirs de ce monde, mais que je peux, donc, par lesquels, pour lesquels je peux jouir par mes cinq sens, immédiatement. Et al-rêve, c'est totalement opposé. Ce sont des promesses d'Allah, que celui qui accomplit ces cinq salats, il aura telle récompense, pas maintenant, pas quand il va se réveiller demain matin, celui qui a fait Isha Jamaat, et qui le lendemain se réveille pour Fajr. C'est quoi la récompense? La récompense, c'est pas que quand vous retournerez chez vous, vous trouverez une montagne d'or. Là, c'est pas ça la récompense. La récompense, c'est quoi? C'est que la personne aura comme tawab, que Allah lui accordera la récompense de la nuit passée dans son adoration. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je peux manger, ce n'est pas quelque chose que je peux boire, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser pour acheter une maison, pour acheter une voiture, ou pour décorer, Wallahu a'lam, ma maison ou autre chose. Non. Celui qui fait l'Isha en Jamaat et la Fajr ensuite en congrégation le lendemain, Allah lui accorde la nuit passée en ibad, en acte d'adoration. Ça veut dire que vous aurez ces récompenses-là, où ça? Dans l'au-delà. Maintenant, moi, musulman, je me dois de croire en cette promesse d'Allah. Parce que dans mon cœur, je dois avoir ce sifat de Al-Ladina yu'minuna. De même, ça c'est par rapport aux promesses, mais par rapport aux mises en garde également. Quand un docteur vous dit que si vous buvez ça, vous consommez ça, vous allez avoir le cancer, voilà telle chose, vous montre des photos, il vous montre vos analyses sont catastrophiques, votre taux de cholestérol, le taux de diabète est comme ça, ou si vous continuez, vos reins ne vont plus fonctionner, il faudra vous brancher juste des machines, à vie, etc. Ah, ça c'est un barar, ça c'est un méfait, ça c'est quelque chose de préjudiciable, mais qui est immédiat. Je vais arrêter le sucre. Je suis un grand mangeur de gâteaux, de glace et tout, Mais quand le docteur m'a dit, votre diabète, là, finit à 3 degrés, non, 3 grammes, si vous continuez, il risque d'avoir tel choc, on va vous amputer la jambe, vous allez peut-être perdre la vue à la longue, etc. Là, je prends, ça la protège, hein. Là, la personne prend peur. Et là, la personne s'arrête. Même s'il aimait le chocolat, le doux, il va arrêter. Même s'il aimait manger bon curry, bon biryani, vagar, etc., etc., il va manger moins. Il va manger des trucs bouillis, des trucs horriblement bouillis. Ça se dit, ça. D'accord? Il va manger 5 fruits, 5 légumes par jour. Ce qui est difficile. D'accord? C'est-à-dire que je suis prêt à abandonner des plaisirs parce que le docteur m'a montré quelque chose d'immédiat. Un problème qui risque de m'arriver demain. Mais par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit le Coran, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. Qu'Allah nous protège. Lorsqu'Allah Ta'ala met en garde l'être humain, attention, c'est pas la traduction, c'est attention, celui qui consomme de l'intérêt. C'est-à-dire que j'ai besoin d'acheter une voiture, je vais à la banque, je dis voilà, j'ai besoin de 30 000 euros, je vais acheter une grosse voiture. Si j'aimerais avoir une grosse voiture, qui n'aimerait pas? Vous aimeriez bien avoir une grosse voiture noire? Oui, tout le monde aimerait avoir une grosse voiture. Si demain j'ai la possibilité d'avoir une Passat TC, je prends tout de suite, je vends ma Passat. D'accord? Je suis content, mais j'ai pas les moyens. Vous voyez que j'ai pas les moyens. Si je vais à ma banque, je sais que mon banquier me prête avec un taux de 5%, monsieur, vous allez être, ça va être ravi, un crédit de 5 ans, ou je passe par qui, Wallah Mustahan. Quand Allah, voilà, le plaisir immédiat, celui qui n'a pas iman dit, bon, je vais emprunter, je vais avoir ma belle voiture. Il n'y a plus à boîte auto, toit ouvrant et tout, et je vais être fier, là, je vais passer dans la rue avec ça. Ça, c'est le plaisir immédiat, l'avoir tout de suite. Mais Allah dit bien que celui, ça c'est l'intérêt. Voilà, pour construire une maison, je vais faire un crédit sur 20 ans, ou pour quelles que soient les méthodes qui, dans lesquelles il y a deux choses, il y a ziyada fil waqt ou ziyada fil mal ou fil si'ab. On vous donne plus de temps, mais à condition que vous remboursez plus d'argent. Tout ça, c'est l'intérêt. Et on peut l'appeler ça par 50 noms différents, on peut appeler ça par d'autres termes, hein, qui font moins peur, mais ça restera de l'intérêt. À partir du moment où je te donne plus de temps pour me rembourser, mais à condition que tu me rembourses, même si c'est un choya en plus, c'est de l'intérêt. Même si c'est le commerçant, ça c'est un massacre que beaucoup ne connaissent pas. On ne parle pas du massacre en général, mais ça c'est grave. Même si le commerçant vous dit que payez 10 fois 100 frais, on est en train de sortir, hein, mais Inch'Allah on reviendra. Payez 10 fois 100 frais. Il dit comment? Il dit, vous payez votre carte 10 fois, il n'y a pas d'intérêt, vous ne payez rien en plus. La marchandise coûte 1000 euros, vous payez tous les mois 100 euros, c'est ça, 10 fois 100 000. Et vous n'avez rien, même pas un euro en plus. Il n'y a pas d'intérêt, attention, grattez, cherchez, il y a de l'intérêt, il y a 6%, il y a 7%, mais c'est le commerçant qui prend en charge ce ziad, cet excès. C'est-à-dire que c'est lui qui a payé l'intérêt pour moi. Et en finalité, c'est pareil. C'est aussi haram. Que ce soit moi qui paie l'intérêt ou que ce soit l'entreprise qui prend à sa charge les taxes ou le dépassement, ça revient strictement au même résultat. On m'a accordé un délai, une échéance plus longue, mais à condition qu'on donne plus d'argent. Que ce soit moi qui paye, ou alors que je dis à mon camarade, bon, il y en a 200 euros d'intérêt, moi, il paye cash, mon 1000, ah ou donne le 200, arrange, ça sent où il est. Non, c'est pareil, le résultat est pareil. Bref, on revient. Lorsqu'Allah Ta'ala met en garde celui qui consomme, ceux qui consomment de l'intérêt, Allah dit n'yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu ash-shaytanu min al-mas, que ces gens-là, le jour de la résurrection, ils vont être ressuscités comme des, c'est pas la traduction exacte, comme des personnes qui sont fous, comme des personnes qui sont possédées, comme des personnes qui sont ensorcelées. Des personnes qui ont été possédées par un shaitan, on voit, ils sont fous, on voit des gens dans la rue qui disent n'importe quoi, qui bougent, des gens qui sont possédés. Celui qui a consommé de l'intérêt, le jour de la résurrection, il se réveille de la sorte, de ce déshonneur, avec ce zilla. Alors qu'il y en aura d'autres qui vont se réveiller avec les prophètes, avec les nabiyyin, les siddiqin, les shuhada, les salihin, avec les sahaba sous l'ombre du trône d'Allah, avec du nour, avec de la lumière sur eux, subhanallah, Allah maja'alna minhum, tandis que ceux-là, ils vont se réveiller comme des gens qui sont fous, qui sont possédés, donc humiliés auprès de toute la création. Mais malgré les mises en garde, Celui qui n'a pas le vrai iman bil rêve, la foi en la vie de son cœur, c'est quoi sa réaction? Ben, il emprunte, il rembourse, il machin, il fait sa vie, il construit sa maison, il achète sa voiture, après il va se dire qu'après j'arrête. Non, après il ne va pas s'arrêter. Il va acheter des maisons pour ses enfants, il va préparer le dunya de ses enfants, des salariés à petits-enfants, jusqu'à ce que Malik al-Maud reprenne son âme. Et il se rend compte que tout ce qu'il a, ça a été construit sur du haram, et qu'il n'a jamais pu demander tawba à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que ça, c'est quand on n'a pas la foi vraiment en ville rêve. Allah nous met en garde. Attention, il y a tel iqab, tel châtiment, j'ai la résurrection. Mais je fais fi de ces mises en garde. Je passe sur ces mises en garde. Et je ne pense pas que réellement ces choses-là vont arriver. Donc, pour revenir, la différence, l'opposition, pardon, qu'il y a entre le dunya, ce qui est adil, ce qui est immédiat, je peux le voir tout de suite, et al rêve, l'au-delà. Et le mu'min, il se doit de travailler, d'avoir foi, de compter uniquement sur l'au-delà et de faire très attention à tout ce qui concerne les plaisirs immédiats. Parce que comme on a dit, il n'y a pas de limite dans la quête du dunya. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a expliqué dans le hadith que il y a deux estomacs, deux ventres, on va dire ça comme ça, qui ne seront jamais remplis. Premièrement, celui qui aime, on va commencer par celui qui est bien, celui qui aime la science religieuse, celui qui aime le ilm, qui aime la science du Coran, la sunna, la science religieuse, celui-là, il va étudier tant qu'il sera vivant, il va aimer, il voudra apprendre encore plus. Ça, alhamdulillah, ça c'est la meilleure des choses. Et l'autre, c'est quoi? C'est celui qui aime le dunya. Tant qu'il aura, il voudra. Jamais il ne s'arrêtera. Il n'y a pas un milliardaire, il n'y a pas un millionnaire de ce monde, que ce soit dans les pays riches ou les pays émergents, il n'y a pas une personne qui a atteint un degré de fortune qui s'était fixé un quota à atteindre dans sa vie. Et il s'est fait la promesse que le jour où j'aurai 3 millions, maintenant j'arrête, je ne recherche plus les biens de ce monde. Ça n'existe pas. Parce qu'une personne qui a eu 1 million, il va faire tout pour avoir 1 100 000. Et ensuite, il fera tout pour avoir 1 200 000, etc., etc. Il n'y a pas de limite quand on rentre dans la quête du dunya. Parce que ça m'a dit que celui qui cherche le dunya, son ventre ne sera jamais plein. Et la seule chose qui remplira son ventre, ce sera quoi? Ce sera At-Turab, la terre. C'est que quand cet être humain, ce insan sera enterré, là, sa cupidité prendra fin. Là, il ne recherchera plus autre chose, parce qu'il n'a plus de rouh. Maintenant, il est enterré. Et c'est pour ça, mes chers frères, dans un BSS, on a le temps. 22 minutes, à 30, on s'arrête déjà, 30 minutes. En 8 minutes, Inch'Allah, on verra que « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ » C'est trompeur. Celui qui vit dans ce monde, celui qui est attaché au plaisir de ce monde, quand l'amour de ce monde entre dans le cœur, à un moment donné, c'est comme si qu'on fait abstraction totale de l'au-delà. C'est pas que je ne crois plus au paradis, à l'enfer, non. Mais c'est comme si que ça paraît tellement loin, alors que ce que je peux avoir demain matin, c'est tellement bien, j'aime ça tellement, c'est que je n'y pense même plus. Alors viens pas dire moi, construit au ta'akhirat, alors que demain je peux me remplir les poches de telle manière. Allah musta'an. Ça c'est le danger, mata'ul ghurur, le dunya. L'amour de ce monde, c'est que les plaisirs, les beautés de ce monde sont trompeurs. Parce que dans ce monde, il y a des choses qui sont beaux. Il y a des choses qui attirent l'être humain. Mais ces choses-là ne sont que des parures. Ce sont des choses qui induisent l'être humain en erreur. Et ce dunya, c'est à cause du dunya que tous les jours, il y a des gens qui sont tués. C'est à cause du dunya qu'il y a des peuples qui sont opprimés. C'est à cause du dunya parfois qu'un mari et une femme décident de se séparer. Quand ils n'ont rien du tout, ils vivent du SMIC ou du RMI ou alors de très peu d'argent, ça va, ils s'entendent bien. Mais le jour où madame a hérité, elle a hérité un bien de sa famille et qu'elle a un peu d'argent, c'est là que les problèmes vont commencer. Le mari va dire que oui, tu as de l'argent, maintenant c'est toi qui payes ça, participe, fais ci, fais ça. Quand le dunya entre dans la vie en général, c'est là que les problèmes. Et à cause du dunya, il y a des couples qui se séparent, il y a des talaqs. À cause du dunya, d'une manière générale, l'être humain oublie Allah, l'être humain oublie de préparer son akhirat, et l'être humain finit par gâcher sa vie de ce monde. Et quand il va mourir, vous savez que quand on voit les interviews, les gens qui vont mourir, je ne sais pas quoi, ils disent que c'est comme si que ma vie a défilé en quelques secondes. Effectivement, avant de mourir, l'être humain est comme si qu'il se rappelle de tout. C'est comme si qu'il revoit tout. Et là, à ce moment-là, il va se rendre compte que, ben, vous savez, quand on va mourir, on se rend compte qu'on a vécu très peu, que c'est passé très vite, 60 ans, 70 ans. C'était comme, subhanallah, c'est passé comme un éclair. Et là, la personne va se rendre compte que durant toute cette vie, je n'ai fait que courir derrière les richesses, que courir derrière le confort. J'ai voulu le confort pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Et tout compte fait, je me rends compte que je n'avais rien d'autre comme objectif que d'arriver à une vie confortable. Mais il n'y a pas de limite. Si j'ai telle chose, je voudrais telle chose. Quand j'habite dans un studio, je veux travailler plus pour pouvoir aménager dans un F2. Après, je veux vouloir un F3, puis un F4. Et ensuite, je voudrais une villa. Après, je voudrais la piscine qui vient avec. Après, je voudrais le jardin qui vient avec, etc., etc. Et là-dedans, il n'y a pas de limite. Et on va terminer avec ça, Inch'Allah, pour rester dans cette description. Il y a un verset magnifique dans le Sourate Al-Hadid, lorsqu'Allah Ta'ala dit I'lamou. Allah Ta'ala s'adresse à la création, aux êtres humains, en disant sachez, I'lamou, annama al-hayatu dunya la'ibun, wa lahwun, wa zinatun, wa tafakhurun baynakum, wa takathurun fil amwali wal awlad. Allah Azza wa Jal a décrit ce dunya par 5 qualificatifs, par 5 adjectifs. Sachez que ce dunya, je n'ai pas la traduction exacte, hein, que ce dunya, ce n'est qu'un jeu. L'arib. Voilà, bon, c'est comme si c'était des plaisirs, mais futiles. Wazina, c'est des parures. C'est des choses que vous croyez, que vous voyez beau. Mais c'est des décorations, mais qui n'ont aucun fond. Voilà, wazina, ton watafahurum bainakum. Ce dunya, c'est quoi? C'est tafahur. C'est que chacun soit fier de ce qu'il a eu. Et que je veux avoir plus que mon frère. Je veux prouver que j'ai plus réussi que lui. Que j'étais plus malin. Que j'étais plus intelligent. Que mes enfants, ils ont plus que tes enfants. Que ma femme, elle a plus de bijoux que ta femme. C'est caricatural, hein? Mais c'est comme ça, de le fond. On aimerait montrer qu'on a plus réussi de ce monde. Et c'est une course à l'argent, à la richesse. Et c'est une course également pour avoir des enfants, une grande génération. Mais qui c'est qui dit tout ça là? C'est celui qui a créé l'être humain, celui qui a créé le naps de l'homme, celui qui connaît la psychologie de l'être humain, qu'est-ce que l'homme aime et quelles sont les faiblesses de l'homme, et c'est celui qui a également créé ce monde et ses plaisirs, et qui sait comment les plaisirs ont été créés et pour combien de temps ils ont été créés. C'est-à-dire c'est Allah notre créateur qui nous met en garde. Attention, il y a des choses qui vont vous plaire de ce monde. Mais ça, tout ce que vous voyez là, c'est des paillettes, en ce sens. Ce sont que des décorations. Attention, ne vous laissez pas tromper par ça, parce que Shaitan doit faire en sorte que vous n'ayez Dieu que vous n'ayez des yeux que pour ce dunya, et que vous finissiez par oublier l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla donne un exemple magnifique. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatuhu. Il dit que c'est comme si qu'il y avait de la pluie. Al-Raid, c'est quoi? Les ulama l'auraient dit qu'Al-Raid, c'est la pluie, mais c'est une pluie qui vient après une longue période de sécheresse. Que les gens, ils attendaient la pluie, et là, la pluie est tombée. D'accord? Elle dit que c'est comme une pluie donc qui tombe du ciel, et que l'agriculteur, les cultivateurs, ils voient qu'après cette pluie, il y a des récoltes. Ils voient des fruits qui poussent, des légumes qui poussent, et ils sont très contents. Ils sont fiers de voir la récolte. Kama taliraydin a'jab al-kuffara, al-kuffara, ça veut dire les fallahs, nabatu. Il est content, et il croit que ça c'est magnifique, que ça c'est des richesses. Mais, thumma yahiju. Et ensuite on voit que ces récoltes-là finissent par dépérir. Fatarahu musfarra. Ce qui était verdoyant, beau, finit par jaunir. Thumma yakunu hutama. Et tout ça, il va finir par se faner, et cela finit par disparaître. Ça, c'est une métaphore, un exemple, pour comparer le dunya à ce qu'on voit. Il y a eu de la pluie, il y a eu quelques fruits, quelques récoltes, on est content, mais quelques temps après, on voit les feuilles jaunir, et ils finissent par tomber, il n'y a plus rien. Ça, c'est exactement la description, la réalité du dunya. Et Allah a dit, manga du mer, et attention, d'accord ? Wa fil akhirati adabun shadid. Attention, et le jour, ça c'est le dunya. Mais dans le akhirat, il y a deux cas de figure. Soit Allah est mécontent de la personne, et il subira azab un shadid, un châtiment terrible. Ou cette personne, lorsqu'elle va rencontrer Allah, Allah sera satisfait de cette personne, et Allah ta'ala lui accordera son pardon. C'est-à-dire qu'il y a deux issues. Soit je suis avec Ahlul Iman, soit je suis avec Ahlul Kufri wal Nifaq wal Fusuq. Il n'y a pas de troisième chemin. Soit je me consacre à l'adoration d'Allah et je laisse les péchés, soit je me consacre au péché, à mes pulsions, à mes passions, et j'oublie Allah. Et en fonction du chemin que je choisis, je construis ma situation de l'au-delà. Si je prends le droit chemin, je construis ma situation de l'au-delà, comme les nabiyyin, les siddiqin, les shuhada et les salihin. Si je suis mes passions, l'argent, le sexe, tout ce qui induit l'homme en erreur, je construis un au-delà terrible avec Qarun, Fir'aun et Haman, nasallahu alayhi wa sallam. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce monde est trompeur. Ça, je vais écrire la traduction, je crois. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور n'est que jouissance trompeur. C'est-à-dire que, comme le hadith dit que فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها.
Celui qui vit dans ce dunya et qui aime ce monde, qui travaille que pour avoir l'argent, les biens de ce monde, à un moment donné, il aura cette conviction dans son cœur, أنه لا دار سواها, qu'il n'y a rien d'autre mis à part ça. Quand on lui parle de Jahannam, c'est trop loin pour lui, parce que son cœur est rempli d'amour du plaisir immédiat, wala ma'ada wara'aha, et qu'il finit par penser, il finit par se dire que, attends, on dit qu'on va être ressuscité, représenté devant Allah, et il dit que c'est pas cohérent tout ça. Même si les musulmans vont finir par avoir des doutes sur le delà, ça c'est le plus haut degré de mon hubbu dunya, c'est le plus grand danger qu'il peut y avoir avec le hubbu dunya. Et ensuite, Allah Azza wa Jal invite l'être humain. C'est comme le verset qui vient après. Wal akhiratu khayrun wa abqa, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Là, je pense qu'on va expliquer la prochaine fois, inshallah. Mais pour reprendre le verset de Sourate al-Hadid, après Allah Azza wa Jal, il continue et il s'adresse aux humains en disant, aux mu'min, disant Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal-ard. Ou'iddat lil muttaqin, ensuite Allah Ta'ala rappelle à l'homme, incite l'être humain, incite le mu'min à aller vers, rechercher le pardon d'Allah Azza wa Jal et rechercher le paradis avec une description qu'Allah Ta'ala donne du paradis. Donc, on va s'arrêter à là, Inch'Allah, on est à 33 minutes. On a vu aujourd'hui un message très important. Qu'Allah Ta'ala dit que malheureusement l'être humain aime ce dunya, bal tu'thirun al-hayat ad-dunya. On a expliqué quels sont les dangers du hubbu dunya et qu'il y a ce qui est nécessaire, ne pas oublier nos devoirs envers notre femme, nos enfants, c'est-à-dire travailler pour avoir sa subsistance halal, licite. Ça aussi, ça fait partie des devoirs du musulman, mais qu'attention, que cette recherche de subsistance ne devienne pas une course derrière le dunya à un tel point que l'être humain finit par oublier la pensée d'Allah, il finit par oublier la préparation du akhirat. Et ensuite Allah a dit wal akhiratu khayrun wa abqa, alors que l'au-delà, ça c'est beaucoup mieux, et l'au-delà c'est quelque chose d'éternel. Et quand on parle de plaisir de l'au-delà, c'est les plaisirs zahir et batin. Les plaisirs, c'est-à-dire les plaisirs du akhirat, les ni'mat, les bienfaits qu'il y a dans le paradis, dont on ne va pas décrire, mais également les bienfaits intérieurs, la tranquillité du cœur. La yamassuhum fiha nasab, dans cette version on a dit que wa naza'na ma fi sudurihim min ghill ikhwanan ala surrin mutaqabilin, que toutes les mauvaises choses qu'il y a dans l'être humain, la jalousie, l'hypocrisie, la haine, tout ça s'est enlevé du cœur de chaque personne qui entre au paradis. À tel point que les gens vont se côtoyer dans le paradis, même celui qui voit un mu'min qui a un grade supérieur à lui, il n'éprouvera pas de jalousie. C'est-à-dire que les corps vont jouir du paradis, mais les cœurs également seront apaisés. Ce qu'on ne retrouve pas de ce dunya. Une personne peut être immensément riche, mais immensément triste dans son cœur. Combien de millionnaires, milliardaires, le soir sont seuls, ils n'ont rien, ou même s'ils ont femme, et maîtresse, mais intérieurement, ils ne trouvent pas un réel épanouissement, une vraie tranquillité du cœur. Alors que dans l'au-delà, c'est un plaisir immense, incomparable, et c'est surtout un plaisir éternel et en progression permanente. Là aussi, on avait expliqué que chez les philosophes, la notion de plaisir éternel n'existe pas, parce qu'on finit par se lasser de tout. C'est une réalité. Même si vous êtes très riche, vous avez tout ce qu'il faut, à un moment donné, vous vous lassez de tout. Vous achetez un joli GSM, vous en rêviez, vous avez payé 600 euros, vous êtes content un jour, deux jours, trois jours, vous jouez avec, mais à un moment donné, ça revient comme un petit téléphone parce que vous l'utilisez pour téléphoner, pour internet et tout, mais après le plaisir. Vous achetez une belle voiture, vous êtes fier quelques jours, mais après, ça devient un simple moyen de transport. Vous avez une belle maison, vous avez une piscine. Tous les jours, vous allez vous baigner. Au début, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, plus que le hadith qui dit que celui qui se baigne dans une rivière 5 fois par jour n'a plus de péché. Ah, mais il fait plus. Mais il baigne 10 fois dans mon péché. Il a demandé, il me devient blanc. Ça m'a fait une gazelle partout. Bref, au début, vous baignez 10 fois par jour, après 8 fois, après 5 fois. Et au bout de 2 ans, la piscine est remplie de feuilles mortes, n'a plus de l'eau, n'a moisissure, n'a chikungunya, n'a tout dedans. On finit par se lasser de tout. Et ça, c'est la réalité de ce dunya. Mais malheureusement, on n'arrive pas à intégrer ça. Que les plaisirs de ce monde sont éphémères. Alors pour l'akhirat, khayrun, c'est clair. Les plaisirs de l'au-delà, incomparables avec les plaisirs de ce monde. Mais wa abqa, c'est-à-dire que de jour en jour, on a de plus en plus de bienfaits, ce qui fait que éternellement, la joie est en progression. La jouissance va aller en progressant et jamais une personne ne sera lassée du paradis. Et les plus grandes récompenses, c'est quand chaque mu'min va rencontrer Allah, va voir Allah Azza wa Jalla de le paradis. Hein? Ça, c'est des choses exceptionnelles dont on ne peut même pas imaginer. Voilà, on a terminé, disons. Inna hadha la suhfi al-oula, la forme gros yeux, suhfi Ibrahim à Moussa. On va terminer, Inch'Allah. Ben ça, ceci se trouve, c'est dans les feuilles anciennes et dans les autres petits livres qu'Allah a révélés avant, les feuilles d'Abraham et de Moïse. C'est-à-dire, tout cet enseignement, c'est le même enseignement qu'il y a depuis le premier Nabi jusqu'au dernier Nabi, al-Nabi alayhi salatu wassalam, depuis qu'Allah azza wa jal a envoyé Nuh alayhi salam pour prêcher le bien et interdire le mal. C'est-à-dire pourquoi Nuh pas Adam, parce qu'à l'époque de Adam il n'y avait pas de shirk, ça a pris à l'époque de Nuh azzaq et juif, donc c'est le premier Nabi qui ordonne le bien et interdit le mal. Rappelez aux gens qu'il faut adorer Allah, ne pas adorer d'autre qu'Allah. Rappelez aux gens que faites attention aux plaisirs de ce monde. C'est-à-dire, même il y a 3000 ans ou 4000 ans, il y avait des plaisirs aussi. Ce n'est pas les plaisirs actuels, mais c'était des plaisirs qui étaient suffisants pour détourner des gens du droit chemin. Donc, à toutes les époques, c'était les mêmes messages qu'Allah Ta'ala a fait passer à chaque mu'min par le biais de ces anbiya. Mais malheureusement, dans la nature humaine, on finit par oublier. Et qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Et qu'Allah nous accepte, qu'Allah ne nous accepte pas par nos actions. Inch'Allah, je veux dire, Yamad, qu'Allah ne regarde pas nos actions. Et qu'Allah nous fasse, Inch'Allah, accéder au paradis par pitié. Parce que si Allah Azza wa Jal examine nos actions, mes chers frères, ce serait une catastrophe. Ce serait la fin du monde. Pas un d'entre nous, ni celui qui parle, ni celui qui écoute, n'aurait le droit de sentir l'odeur du paradis. Là, wallah, je jure par Allah que personne ici présent, personne n'est en droit de respirer l'odeur du paradis. Parce qu'on ne va pas comparer notre salat al-Isha avec salat al-Isha de Abu Bakr al-Siddiq, de Umar, de Uthman, de Allah, wallah. C'est vraiment qu'Allah Azza wa Jal a pitié de nous. Qu'Allah Ta'ala nous fera entrer au paradis par pitié de nous. Parce que, oh Allah, on a essayé. On a écouté l'enseignement du prophète Ali, salat wa salam, et on essaie de se rapprocher d'Allah. On n'arrive pas à faire comme nos pieux prédécesseurs, mais on fait nos efforts. On avance d'un pas, on en recule de deux. On fait un péché, on demande tauba. On se rapproche d'Allah, le lendemain, on refait un autre péché. On redemande tauba. Et Allah, il connaît nos faiblesses, Allah connaît nos défauts, mes chers frères. Mais qu'on demande, oh Allah, ayez pitié de nous, que le jour de Qiyamah, Allah nous fasse accéder au paradis, bref, les hisab, uniquement par sa rahma, qui est sans limite par sa pitié et sa clémence, et qu'Allah nous accepte et nous accorde ce paradis. On a terminé, alhamdulillah, le sourate très important, Sabih Isma Rabbika Al-A'la, et si Allah nous donne la possibilité, Inch'Allah, de tawfiq la semaine prochaine, on commencera avec Wassama'i Wattariq. Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wassalamun Ala Al-Mursaleen, Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Zakum.